RFI Midi, Alexis Guilleux.
Et on revient à présent sur cette vague orange, la victoire des partis pro-démocratie en Thaïlande lors des législatives d'hier, un revers pour les militaires au pouvoir, qui sont donc au pouvoir depuis près de 10 ans. C'est donc une période d'incertitude et de négociation qui s'ouvre. Pita Limjaroenrat revendique la victoire. Son parti Move Forward est arrivé en tête. On en parle aujourd'hui avec Jean-Louis Margolin, historien de l'Asie orientale contemporaine. Jean-Louis Margolin, bonjour.
Bonjour.
Le fait politique en Thaïlande, c'est donc cette vague orange. Qu'est-ce qu'elle symbolise? Qu'est-ce qu'elle nous dit de la société thaïlandaise d'aujourd'hui?
D'une part, elle est très impressionnante, puisque il faut dire quand même que ce parti qui avait été menacé de dissolution, d'ailleurs son prédécesseur immédiat avait été dissous, ses leaders invalidés, a obtenu non seulement la première place dans ces élections, mais enfin la bagatelle quand même de 14 millions de voix. Hein. Par exemple, tous les sièges sauf un à Bangkok, donc c'est un succès extrêmement impressionnant et d'ailleurs d'une ampleur inattendue par les observateurs, même les plus sympathisants, en quelque sorte, avec cette rénovation de la politique thaïlandaise. Alors ce que ça dit, c'est que d'une part, on a quand même une victoire de la jeunesse, un peu comme ce qui est le principal soutien de ce parti, la jeunesse, en particulier la jeunesse éduquée, la jeunesse des grandes villes, en particulier à Bangkok, la jeunesse également représentée par ce candidat au poste de Premier ministre, hein, soutenu par une coalition qui pourrait être victorieuse hein, au Parlement, Pita, que vous avez nommé, tout le monde appelle les gens par leur prénom en Thaïlande, hein, donc pas la peine de citer son nom entier. Et c'était en même temps, il faut tout de suite préciser que la population thaï étant rapidement vieillissante aujourd'hui, hein, la natalité est fortement réduite depuis longtemps, ça signifie aussi bien sûr que ce parti est sorti en quelque sorte de cette niche de la partie la plus jeune de la population et a réussi à obtenir des succès, par exemple, y compris dans des campagnes relativement isolées, conservatrices du nord du pays. Auprès d'un électorat donc beaucoup plus âgé et évidemment socialement beaucoup moins favorisé, beaucoup moins également formé aux nouvelles technologies que celui de Bangkok. Donc c'est vraiment une évolution très importante.
À quel point les manifestations de 2020 qui réclamaient notamment une refonte de la monarchie thaïlandaise ont façonné cette vague orange en 2023?
Ah, il est clair que ça a joué un rôle très important dans la consolidation de ce mouvement, dans la formation d'une nouvelle génération militante et également, je dirais, dans la confirmation auprès de beaucoup de Thaïlandais qui pouvaient avoir des doutes à ce sujet, que le jeu était truqué quand même, parce qu'on a eu une violente répression, qu'il y a plusieurs dizaines d'emprisonnements qui ont mis fin à ce mouvement, et ça a confirmé en quelque sorte qu'il fallait vraiment réformer deux choses essentielles. D'une part, la place de l'armée dans la vie politique, puisque après son coup d'État de 2014, mais c'est loin d'être le premier, l'armée en fait est le facteur dominant de la vie politique du pays, et d'autre part, le rôle du palais, le rôle du roi, qui en quelque sorte se défend son pouvoir et son immense fortune au prix de procédures incessantes de crimes de soi-disant lèse-majesté destinés à éliminer de la vie politique et mettre en prison si possible les opposants les plus résolus, enfin tous ceux qui sont un petit peu critiques vis-à-vis du régime.
Alors Jean-Louis Margolin, quelle réaction aujourd'hui attendez-vous de la part de la junte, sachant qu'en 2019 elle était parvenue à maintenir Prayut à son poste de Premier ministre?
Eh bien, c'est un peu la grande inconnue, parce que constitutionnellement, ils ont encore quelques cartes à jouer, puisque certes, l'opposition est très massivement victorieuse. Elle a plus de 300 sièges sur les 500 que compte le Parlement. Donc normalement, les choses devraient être tout à fait jouées. Sauf que la constitution thaïlandaise, faite par cette junte, prévoit que le poste de Premier ministre ne soit attribué qu'après une consultation certes de ces 500 députés, mais aussi des 250 sénateurs qui, eux, sont tous nommés par le pouvoir en place, c'est-à-dire concrètement par l'armée. Et donc, ça signifie évidemment qu'il faudrait une énorme majorité au Parlement, si du moins l'ensemble des sénateurs sont décidés à torpiller la nouvelle majorité. Il faudrait une énorme majorité qui sera difficile à obtenir pour obtenir cette concrétisation, en quelque sorte, de la victoire de l'opposition. D'un autre côté, ce succès de l'opposition est tellement net qu'on peut penser que ça reviendrait presque à un nouveau coup d'État qui serait peut-être difficilement accepté par la population et par, y compris, les élites économiques, dont fait d'ailleurs partie Pita, renier, en quelque sorte annuler le résultat
cette
de
victoire. Ah, il nous reste une petite minute, Jean-Louis Margolin. Un mot sur le parti Pita qui accepte de rejoindre cette coalition. C'est la première fois que ce parti n'arrive pas en tête de l'histoire récente de la Thaïlande. Est-ce que c'est un changement d'époque pour le pays ?
C'est un changement d'époque. D'abord, il faut signaler qu'il a quand même eu un succès assez important. Il n'est pas très loin derrière le parti victorieux. Ce qui est clair quand même, c'est qu'on a une sorte d'amalgame qui a été fait par la génération la plus neuve, hein, et sans doute par la population également des grandes villes, entre les vieilles élites conservatrices, royalistes et militaires qui mènent le jeu donc depuis 2014, et puis cette élite très populiste, très fondée en fait sur une utilisation parfois malsaine de l'argent. Thaksin Shinawatra était une des plus grandes fortunes du pays, et une sorte de rejet global en quelque sorte d'un système politique fondé quand même très largement sur le clientélisme, sur l'argent, sur les relations
Jean-Louis,
familiales.
Merci
etc.
Jean-Louis Margolin, historien de l'Asie contemporaine. Voilà. Vous êtes co-auteur des Indes et l'Europe, histoire connectée, 15e, 21e siècle.